Les semaines de l'égalité de Saint-Étienne Métropole regroupent une série de rencontres, d'événements, d'actions pour promouvoir la diversité, la mixité, pour lutter contre les discriminations, pour favoriser le vivre ensemble avec une ouverture et une accessibilité pour tous les publics. Il est néanmoins dans ces trois semaines un rendez-vous initié depuis de nombreuses années, destiné exclusivement aux travailleurs sociaux du territoire dans le développement de leurs pratiques. La journée de formation des professionnels avait pour titre cette année « Les enfants, victimes oubliées des violences conjugales ». Elle a eu lieu le 26 mars à l'espace Aretha Franklin de Montréno de Saint-Étienne, où le CIDFF de la Loire, le Centre d'information des droits des femmes et des familles et SOS Violences Conjugales 42, avec le soutien de la métropole et de l'État, ont organisé cette journée de discussion et d'échange. Dans ses émissions Les Ondes de l'Égalité, Radio Ondaine vous invite à écouter aujourd'hui la conférence de Brigitte Lecaplain, psychologue et psychothérapeute, conférence à deux entrées, les conséquences des violences conjugales sur l'enfant, la famille et la société, les enfants, victimes oubliées des violences conjugales.
Sur les conséquences des violences conjugales sur enfants, famille et société, la première question qui m'est venue quand on m'a proposé le thème, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'en 2024, on a encore besoin de savoir, alors que je crois que vous êtes tous des professionnels avertis, vous savez, vous avez appris dans votre pratique les conséquences délétères des enfants qui sont soumis aux violences conjugales des parents. Donc je me suis interrogée sur la question du savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire de savoir plus? Je vais développer ça un peu plus tard. Sur le deuxième titre, les enfants oubliés des victimes des violences conjugales, je ne crois pas qu'on les oublie. Pour avoir plus de 30 ans de pratique, en analyse de pratique notamment, je crois que ces enfants sont au cœur de vos préoccupations. Vous ne les oubliez absolument pas. Je crois par contre que parfois, on passe souvent à côté. Je vous expliquerai pourquoi, c'est pas de votre volonté. Le fruit de cette réflexion... Et sur la base des 30 années passées, j'ai travaillé 25 ans à l'aide sociale enfants, j'ai travaillé sur toutes les missions de l'aide sociale à l'enfance, plus créer le lieu tiers et le POM, le placement hors les murs. À l'époque, il n'y avait que le Gard et un autre département qui faisait le pari de protéger l'enfant à l'intérieur de sa famille. Et puis, je me suis installée en libéral en 2007 et je suis arrivée sur Besançon. Et quand je suis arrivée sur Besançon, j'ai travaillé 6 ans à l'unité des soins palliatifs qui m'a aussi beaucoup éclairée sur la question éthique. J'en reparlerai un peu plus tard. Je suis très heureuse d'être ici en face de vous et j'aurais envie de dire enfin, parce que je vous porte en moi depuis quelques semaines et il m'est arrivé une mésaventure et je vous parlerai de ce qui s'est passé en face de mon psy pour introduire la théorie de l'attachement. Parce que pour moi c'est très important cette théorie, elle va définir un peu tout ce qui se passe dans les premières années, toutes les croyances qu'on va développer autour de ça et notamment quand les enfants sont soumis aux violences conjugales. Oui, pourquoi en savoir plus? Est-ce que ce que nous savons déjà en matière de protection de l'enfance ne suffirait pas? J'ai l'idée que d'en savoir plus, il y a deux possibilités. Soit le savoir nous permet de maintenir une distance avec le public que l'on va accompagner, soit cette connaissance va nous permettre de nous rapprocher, de créer la rencontre avec le public que nous accompagnons. Donc je vous laisse seul responsable. Mon dire n'est pas si important que ça, mais de savoir ce que vous allez faire de ce savoir-là. Est-ce que ça va vous permettre de créer la rencontre ou au contraire de maintenir une certaine distance? En aucune façon, tous mes propos, et ça fait belle lurette que je sais qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, donc je vous emmène sur une dimension plus symbolique de la pensée. Dans la matière, on a le nez dans le guidon, on ne peut pas se regarder pédaler. Donc on fait ce qu'on peut faire, apprenons de ce qu'on a fait pour être différent la fois suivante. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter l'histoire de Jamila. Jamila, c'est son vrai nom, elle m'a autorisé à vous donner son prénom. Elle est issue d'une famille de 13 enfants. Il y a des violences conjugales. Elle a été incestuée par son frère aîné. Elle a su dire non très tôt à ce frère-là, mais a grandi dans un milieu très violent. Et puis, au cours de la thérapie, elle avait déjà fait une première tranche. Je la vois ça fait peut-être maintenant 2-3 ans. Et elle m'a rendue tout de suite curieuse parce qu'elle me dit, mais en CE1, CE2, j'ai eu la même institutrice et ça a été la chance de ma vie. Ça m'a rendue très curieuse. Je lui dis, mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Elle me raconte que cette institutrice a été très présente auprès d'elle. Elle lui a donné, elle vivait aussi dans une grande précarité, elle n'avait pas de manteau, pas de gants, pas de vélo. Et elle me raconte que cette institutrice, un jour, est venue la voir très tôt en CE1 pour lui dire, je sais ce que tu vis. Si tu as besoin en récréation de venir te réchauffer, de venir dessiner, de venir parler, viens, tu seras la bienvenue. Et pendant 2 ans, elle lui mettait de la colle dans ses petits pots le soir, elle lui mettait des crayons dans sa trousse, elle lui a donné un manteau, elle lui a donné des gants, elle lui a, quand ses parents l'oubliaient à l'école, elle la ramenait sans interpeller ses parents. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous avez vécu pendant 1 an ou 2 ? Elle me dit, mais je n'ai manqué de rien. J'avais tout et elle m'a redonné l'espoir. J'avais plus besoin de me cacher, j'avais plus besoin de mentir. Alors que je devenais agressive, je m'entourais d'enfants, d'un groupe d'enfants où j'étais agressive, en colère contre les autres enfants qui avaient mieux que moi, en colère contre les enfants qui se moquaient de moi. Elle garde un souvenir avec une infirmière qui la mettait à distance parce qu'elle sentait mauvais. Et elle m'a fait sourire parce qu'elle m'a dit qu'elle était méchante. J'entendais la petite Jamila qui parlait parce que méchant, c'est un mot d'enfant. Et elle m'a dit ça, c'était pas possible. Et quand elle m'a accueillie comme ça, je ne manquais de rien. J'ai compris que je pouvais vivre dans un autre monde. Ça m'a donné de l'espoir. Et là, je pouvais être aimée pour qui j'étais. Je pouvais apprendre. Pour la petite histoire, Jamila a eu 19 de moyenne, a eu 19 à son bac de français, oral écrit, la meilleure note de tous les lycées de Bordeaux. Et elle a été recalée dans un bac scientifique du fait de sa culture. Donc, elle l'a su par un prof de maths après. Donc voilà, il y a aussi des discriminations. Elle a beaucoup souffert. C'est une femme merveilleuse, très lumineuse. Elle fait un boulot du feu de Dieu. Elle a 2 petites filles qui grandissent bien avec un conjoint aussi où ça se passe bien. Donc, l'espoir est permis et c'est pas toujours délétère son histoire. Elle m'a dit aussi que, et c'est pour ça que quand j'introduis le savoir, comment on sait, je me suis dit que cet instinct-là n'avait pas besoin de savoir pour être auprès de cette petite fille. Parce que c'est sûr qu'elle ne savait pas tout de ce qui se passait dans sa famille. Mais elle a juste été présente, elle a juste comblé cette petite fille dans son périmètre, elle n'est pas allée plus loin. Et Jamila me disait, de toute façon, si elle m'avait interrogée, je n'aurais rien pu dire. Parce que j'aimais mes parents inconditionnellement. Je ne pouvais pas m'en séparer. Je fais des points avec la théorie de l'attachement. Parce que contrairement à ce qu'on croit, un enfant qui n'est pas bien sécurisé ne pourra pas quitter ses parents. J'aurais été dans un conflit de loyauté, donc je n'aurais pas parlé, je ne voulais pas les quitter. Donc cet instinct, j'ai trouvé qu'elle m'a éclairée sur cette forme de présence quand le faire ne suffit plus. Et tu sais qu'en ce moment, on fait beaucoup et on ne sait plus que faire. Je me suis dit, voilà ce qui reste à faire, c'est d'être présent, ne pas abandonner, ne pas laisser l'enfant seul dans ce qu'il vit. Même si on est impuissant, pour moi, il y a une puissance d'être là. Et c'est pas facile d'être là quand on est témoin de tout ce que l'enfant vit, de tout ce qu'il nous dit et ne nous dit pas, mais qu'on suppose, qu'on présuppose, quand on n'arrive pas à rencontrer les parents. Et donc, je me dis, d'être présent, c'est pas simple. Il faut tenir, quand c'est insoutenable, il faut tenir, d'être là, parce que je trouve que cet instinct nous donne la voix sur comment être quand on ne sait plus quoi faire, quand le faire ne suffit plus. Donc elle me dit qu'elle a été sécurisée et qu'elle a pu grandir, elle aimait l'école, donc elle me disait aussi que ça l'a empêchée de devenir folle. Elle dit que là, donc je trouve que cette présence a été vraiment soutenante et élaborante pour cette petite fille qui allait vriller. Elle dit aussi une phrase que j'aime beaucoup qui est en rapport avec la théorie de l'attachement. Je me suis réconciliée avec l'extérieur. C'est aussi ce que l'instinct a fait là, et qui, je crois, est vraiment primordial, ce qu'on fait en thérapie, mais ce que vous faites aussi chacun et chacune dans votre métier, c'est la fonction de reconnaissance. Elle n'a pas eu besoin de savoir cet instinct. Elle a reconnu cet enfant dans ce qu'elle vivait. Et le simple fait d'être reconnue, sauf que c'était très large, hein, parce qu'elle n'a pas mesuré tout ce qu'elle vivait dans cette famille, cette fonction de reconnaissance a donné une verticalité à cette petite fille, a redonné de l'espoir. Elle s'est sentie reconnue. Elle n'était plus seule à porter le fardeau. Dans la préparation de cette conférence, j'ai failli passer à côté de vous et à côté de moi-même. Je vous disais, enfin là. Parce que quand je travaillais avec mon psy pour préparer cette intervention, je lui disais, il y a un truc quand même à 57 balais où je ne m'y fais pas. Quand je suis face à un public, à ce grand tout, je suis terrorisée, mais terrifiée. Ah bon ? J'ai pourtant l'habitude de prendre la parole, mais face à ce grand tout que vous représentez, j'étais terrifiée. Et je lui dis, mais je suis pas à l'aise avec le silence de la mort. Il me dit, le silence de la mort ? Il me dit, mais c'est quoi que tu sors là, Brigitte ? Je dis, oui, je sens le silence de la mort. Ah bon ? Il me dit, tu peux m'en parler ? Et puis tout d'un coup, j'ai une remontée de fioul. Je me vois bébé face à ma mère qui représente un grand tout. Ma mère était dépressive à ma naissance, sous antidépresseur. Tout sauf le silence d'une mère. J'ai vu que quand j'étais bébé, j'avais des sanglots à n'en plus finir pour me dire, mais face à ce silence, j'étais super mal et j'ai même contacté l'angoisse de la mort. J'ai eu très très peur. Ça c'est pour introduire la théorie de l'attachement et pour vous dire qu'il n'y a pas le monde de la maltraitance d'un côté et notre monde de l'autre. C'est un continuum. Nous vivons tous dans le même monde. La blessure de ces enfants sont nos blessures. Ils nous apprennent. Ils nous permettent, quand on travaille sur nous, à être un peu plus présents avec eux. On n'est pas différents, on est semblables. Après, bien évidemment, ces enfants-là peuvent être en danger de mort, psychique ou physique. Donc là, on sait ce qu'il faut faire. Ils ont des degrés différents. Quand je parle de Jamila, elle a eu une résilience incroyable. Donc, il y a toute une singularité. On sait que, mais on sait, pour moi, la théorie, enfin, ce que je vous raconte de moi, on a tous des manques à être. On a tous des parts non vivantes en nous, de par notre histoire. Faut pas se leurrer, hein. On fait partie du même monde. Je n'ai pas manqué d'une mère absente. Ma mère était là. J'ai manqué d'une mère présente, mais manquante. C'est important pour la suite aussi, parce que je crois qu'on partage tout ça plus ou moins. Donc sur l'échelle de la souffrance, il n'existe pas deux mondes. Celui de la maltraitance et le nôtre, comme je vous l'ai dit, c'est un continuum. Nous avons par contre tous, à des degrés différents de notre parcours de vie, souffert de manque à être. La théorie de l'attachement, c'est quoi ? Peut-être parmi vous, vous la connaissez, c'est quelque chose qui porte ma clinique, parce que je crois qu'on est plus conditionné qu'on ne veut bien l'admettre. J'ai même résisté très fort avec des formateurs belges en disant non, non, moi je ne suis pas conditionné, j'ai mon libre arbitre. Bon, ça c'était il y a quelques années. Maintenant, je me dis que si, on est très conditionné. La théorie de l'attachement, c'est quoi ? Ça a été développé dans les années 60 par des Québécois. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs mouvements. On va vivre une expérience universelle d'un grand tout. Dans la vie intra-utérine, on est tous nourris, logés, blanchis. On n'a pas d'inquiétude. Si la mère est sécure, hein, je vous parle d'une mère sécure, je ne vous parle pas, parce qu'on sait que les violences conjugales, une fois sur deux à peu près, les violences conjugales démarrent, hein, dans la vie intra-utérine. Mais dans le cas d'une mère sécure, sécurisée par l'extérieur, on va vivre peinard pendant 9 mois. On va faire l'expérience d'un grand tout fusionnel, fusionnel avec la mère, fusionnel avec tous nos ressentis, perceptions. Arrive la naissance, on va quitter le monde aquatique pour aller sur le monde aérien. Et là, patatras, on va commencer à éprouver ben, j'ai faim, j'ai froid, je suis pas confortable, où je vais dormir. On va avoir toutes les perceptions, sensations, et ça va être très chaotique à l'intérieur de nous. On ne sait pas, encore au bébé, organiser notre psyché. C'est la figure d'attachement. Je parle de figure d'attachement parce que la mère, la nounou, le père font ce qu'ils peuvent en chair et en os. Jamais, jamais je n'attaque les personnes en chair et en os. Elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles sont. Donc je vais parler de figure d'attachement pour vous hisser sur la fonction symbolique. La figure d'attachement, qu'est-ce qu'elle va faire avec son petit ? Elle va devoir organiser ses besoins. Lui dire quand il a faim, quand il pleure, bah c'est sa faim. Quand il a froid, quand il a sommeil, alors il y a des bébés qui vont être résistants, d'autres qui vont être plus obéissants, répondre au décryptage de la mère, mais on a tous besoin, parce que je parlais de la fonction de l'instinct avec la fonction de la reconnaissance, la mère doit reconnaître les besoins de l'enfant. C'est important. Les Québécois disent 60%, ça c'est les Québécois, il faut toujours qu'ils chiffrent, mais à peu près 60% des besoins, donc il y a les besoins premiers, hein, nourrir, manger, dormir, avoir chaud, avoir froid, avoir chaud plutôt, que le bain soit tiède, soit à sa juste température, mais il y a aussi des grands besoins de relation, d'interaction avec sa maman. Moi, quand en séance avec Jean-Luc Tournier, j'ai connecté ça grâce à vous avec le grand tout. Je faisais ça de la main et je voyais ma mère passer et puis je voyais que mes petites mains, elles faisaient ça et je me disais, waouh, bon, elle ne me voit pas, je ne suis pas intéressante. Si le bébé a besoin d'être reconnu et d'être reconnu comme la septième merveille du monde, ça n'est pas un bébé gâté, ça n'est pas un enfant roi. Mais durant ces 3 premières années, l'enfant doit un maximum être reconnu dans ses besoins. S'il ne l'est pas, des croyances vont naître. S'il l'est, des croyances vont naître. Quand il est reconnu, il va se dire « Ouah, je suis un super bébé. Mes besoins sont satisfaits, ma mère le reconnaît. » Pour tout ça, il faut qu'il ait des réactions chaleureuses, immédiates, attendues. Et rapide, oui, immédiate, rapide, il m'en manque un, ça va revenir. Quand il a tout ça, il va développer l'estime de soi et la confiance en soi. Bien souvent, quand les gens arrivent en thérapie, ils me disent « j'ai pas confiance en moi ». Quand je vois leur vie, je leur dis « ça m'étonnerait que vous n'ayez pas confiance ». Par contre, de l'estime pour vous-même, probablement que vous en manquez. Et souvent, je vais aller rechercher dans leur histoire de bébé ce qu'ils ont vécu. Quand l'enfant n'est pas reconnu dans une grande majorité de ses besoins et surtout une reconnaissance de ses besoins affectifs, interactifs, de se sentir un super bébé, des croyances vont naître. Je suis pas un super bébé, je suis pas intéressant, je suis nul, ça vaut pas le coup de vivre, à quoi bon ? Il y a des bébés qui vont assez réagir et pas être d'accord avec ça. Et puis il y a des bébés qui vont vite comprendre parce qu'ils sont en état de survie. Je vous rappelle qu'un bébé, 48 heures, on le laisse sur le dos comme une tortue, il meurt si on ne lui donne pas de soins. Donc nous avons tous vécu l'état de survie. Et de là, il va falloir passer sur le plan du vivant et sur le plan de l'être ensuite. Quand un bébé est en état de survie, et qui voit que sa figure d'attachement va pas répondre à ses besoins, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'adapter, se suradapter à ses besoins, aux besoins de sa mère. Ces enfants qui vont devenir parentifiés, les enfants qui sont victimes de violences conjugales, ont ça en commun. Ils vont développer une hypervigilance, de voir si c'est le bon moment de demander quelque chose, avec l'idée aussi de répondre aux besoins de leur maman, parce que si on répond aux besoins de leur maman, peut-être qu'elle répondra à ses besoins à lui. J'ai une pensée qui m'arrive, mais... Donc, quand un enfant est en état de survie, il va développer des compétences, parce que dans la théorie de l'attachement, c'est lui qui crée l'attachement pour en retour créer une relation de besoin. L'enfant ne sait pas que sa figure d'attachement est en carence et en manquement, ne sait pas qu'elle est en état de survie comme lui dans les violences conjugales. Il ignore tout, il ne sait pas si sa mère a une pathologie ou pas, donc il va prendre pour argent comptant ce que la mère lui donne. C'est comme ça, comme c'est lui qui crée l'attachement, il va développer des croyances, c'est lui qui s'y prend comme un... de travers pour pouvoir interpeller sa mère. Il va porter toute la responsabilité. Ça s'appelle la culpabilité. On l'a tous en nous d'une manière ou d'une autre. Il y a des culpabilités comme ça qui s'originent en disant « j'ai pas su faire, j'ai pas su intéresser ma mère ». J'ai pas su. Alors, il y a une figure d'attachement, il y a 4-5 figures subsidiaires à laquelle il peut s'accrocher, heureusement, hein, ce qu'on appelle des tuteurs de résilience, hein, heureusement que il va pouvoir s'attacher une super nounou, une instite, un professionnel que vous êtes. Vous ne voyez pas toujours ce que vous faites. Ça, c'est ce que je dis souvent aux équipes. Vous ne voyez pas ce que vous faites. Parce que les enfants s'accrochent à une parole, à un mot, à un regard, une présence. Voilà. Donc il ne sait pas que sa figure d'attachement est mal en point. Il ne sait pas que sa figure d'attachement, il y a du transgénérationnel. Il ne sait pas qu'elle-même a été bébé, qu'elle a reçu aussi dans une relation de soins qui était sans doute précaire, sans doute manquante, sans doute carente. Il ne sait pas tout ça. Donc, il va tout prendre, il va tout porter sur son chapeau. Quand l'enfant va vivre ça, et je pense aux enfants qui sont victimes des violences conjugales, peut-être avant de vous dire ça, dans la théorie de l'attachement, ça n'a pas à voir avec l'amour des parents. Moi, combien de parents me disaient à l'aide sociale enfant, j'aime mon enfant. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Ça, je sais que vous l'aimez. La manifestation d'amour est un petit peu questionnante. Juste ça à vous dire. Le juge a l'air de dire que ça n'est pas suffisant ce que vous faites. Souvent, d'ailleurs, il me disait, mais vous voyez pas, mais moi, mais c'est ce que j'ai reçu et ce que je fais à mon enfant, mais c'est beaucoup moins. Sûrement, mais c'est pas encore assez. Et la théorie de l'attachement est là quand on répond aux besoins, à plus de 60% des besoins de son enfant. Elle est là pour sécuriser l'enfant. Et le sécuriser, ça va lui permettre d'explorer le monde et d'aller faire ses apprentissages, d'aller sur ses potentiels. Quand l'enfant n'est pas sécurisé, ce qu'il va comprendre très vite, c'est qu'il faut se protéger du monde. Le monde est un adversaire. Ce n'est pas un monde amical. Ce n'est pas un monde à rencontrer. Il faut rester à l'abri. C'est une première chose. Et puis, quand un enfant n'est pas sécurisé, contrairement à ce qu'on pense, il ne peut pas se séparer de la mère. Quand un enfant est sécurisé, il va pouvoir aller dans son bac à sable, jouer avec les copains pour faire des châteaux de sable et tourner le dos un petit peu à maman, à sa figure d'attachement, la regarder de temps en temps et quand ça va mal, l'appeler. Quand un enfant n'est pas sécurisé, il ne peut pas s'éloigner de sa mère. Il ne peut pas s'éloigner parce que parfois, sa figure d'attachement peut lui offrir des bons moments. Donc il ne va surtout pas quitter ça parce qu'on ne sait jamais. Si toutefois il pouvait avoir un autre bon moment et que c'est imprévisible, on ne va pas le quitter pour revivre ce bon moment-là. Et puis quand c'est un peu plus costaud, au niveau du manque de la non-réponse à ses besoins, l'enfant va développer des troubles de l'attachement, ni avec toi, ni sans toi. C'est-à-dire qu'il hurle pour appeler sa figure d'attachement, et quand elle arrive, il la repousse. Là, on est vraiment dans des choses assez sérieuses dans la relation de soins. Bien souvent, les enfants sont ambivalents et peuvent essayer de grappiller un peu du bon, donc de ne pas quitter. Ils vont aussi développer de répondre aux besoins de sa figure d'attachement, donc il ne faut pas trop s'en éloigner. Voilà. Donc, entendez que ce monde-là n'est pas à explorer, le monde extérieur. Quand j'entendais Jamila qui disait le monde, ça me donnait de l'espoir et je pouvais vivre dans ce monde-là et pouvoir m'épanouir, j'ai trouvé ça top. Je me suis dit, waouh, cette instite, elle lui a permis de dire que le monde, elle pouvait aller explorer le monde, aller développer ses compétences qu'elle a fait, elle est devenue assistante sociale. Une très belle assistante sociale. Donc pour moi, ils vont, donc je disais doublement parce qu'ils ne peuvent pas aller explorer le monde et le monde du dedans est insécure aussi. Donc voyez l'angoisse. Et la plus grande, à mon avis, on pourrait rentrer dans les détails, mais je crois que vous connaissez suffisamment, mais ce qui va se produire chez l'enfant qui est victime de violences conjugales, c'est que face à une mère qui est en état de survie, qui elle-même va regarder, va être soucieuse de sa protection, elle va négliger son enfant. Elle ne peut pas le regarder puisqu'elle est tout le temps préoccupée avec elle-même de ce qui va se passer. Elle va être en hypervigilance, elle aussi, sur son conjoint ou inversement, hein, si c'est la femme qui violente le mari, sur le plan symbolique, époux-épouse. Elle va donc le négliger. Et l'enfant va se sentir négligé. Quand un enfant se sent négligé et qu'il est soumis aux violences conjugales, sur le plan psychique, il n'a pas la maturité pour vivre ça aussi. Il va aussi contacter des angoisses de mort parce qu'il va toujours avoir peur que son papa ou sa maman meure. Il va être toujours très triste parce qu'en 2024, j'ai des adolescents encore que je rencontre et qui sont toujours très tristes, même si les divorces maintenant sont assez répandus. Ils sont toujours très tristes de la séparation du couple parental. Ça, ça change pas. Il y a beaucoup de choses qui changent dans la psyché des adolescents d'aujourd'hui, mais ça, ça ne change pas. Ils sont toujours tristes. Un bébé qui voit son papa ou sa maman se battre, se violenter, va être très triste de ça aussi. Il manque d'amour. Et donc, quand il va se sentir négligé, il va développer deux choses, deux aspects, deux grands axes. Et où il va développer des comportements très agressifs. Jamila nous a renseigné là-dessus. Elle commençait à constituer un petit groupe dont elle était la leader. Et elle y allait à la castagne, du haut de son CE1. Et puis, la négligence. L'enfant va se négliger. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde, la négligence. C'est-à-dire que quand on a été négligé dans ses soins, on se néglige nous-mêmes sur nos manques à être, sur ce qui n'a pas été développé, reconnu par la figure d'attachement. Mais eux, ça peut être encore plus fort. Parce que normalement, quand la figure d'attachement a répondu à tous nos besoins, on va devenir des adultes qui vont pouvoir répondre à ses propres besoins. On n'a plus besoin de père et mère pour vivre et on va placer en nous un bon parent où on va prendre en charge notre relation de besoin et on va pouvoir y aller et s'épanouir. Bon, bien souvent, notre relation de besoin, si on la regarde bien, on n'est pas toujours bon sur tous les endroits. Il y a certaines choses, certains aspects sur lesquels on va répondre, d'autres sur lesquels on va se négliger. Les enfants victimes de violences conjugales vont être beaucoup plus... Ça dépend, hein, suivant leur résilience, suivant leur degré d'adaptation, mais vont se négliger quand même plus fortement, hein, vont ne pas faire attention à eux, vont avoir des conduites dangereuses, à risque, même si les adolescents le sont. Bon, souvent, il faut aller regarder la relation de besoin quand même dans ces adolescents. Mais c'est les deux grands axes pour moi. Ils vont devenir agressifs face au monde. Et la façon de communiquer, ça va être dans des comportements agressifs. Ils ne savent pas communiquer avec le monde, communiquer avec les enfants de leur âge, communiquer avec les adultes. Ils ne savent pas rencontrer. Je vous rappelle, c'est un monde dans lequel il faut se protéger. Donc, ils vont développer des mécanismes de défense agressifs, passifs, agressifs, actifs, hétéro-agressifs ou auto-agressifs, tournés vers eux-mêmes ou tournés vers l'extérieur. Donc là-dessus, moi, je regarde toujours et j'essaie de rétablir aussi... j'essaye d'expliquer, ça parle très bien, très très bien, cette théorie de l'attachement quand on renvoie à ce qu'ils ont vécu, parce que souvent il y a une méconnaissance, et quand même à 57 ans, moi, découvrir à l'aide de ce grand tout maternel pourquoi j'étais terrifiée, je me dis, bon, il faut aller les chercher ces trucs-là, hein, on les trouve pas, même ça fait plus de 30 ans que je suis en analyse, en supervision, je connaissais par cœur cette histoire de ma mère et de mon histoire à moi, il a fallu que j'arrive à 57 balais pour découvrir le poteau rose sur mon angoisse de mort et le fait d'être terrifiée par ce grand tout. Donc le chemin est long pour chaque enfant, pour chaque adulte en devenir. On construit sa vie. Et moi, quand je dis conditionné, j'ai organisé ma vie autour de ça. Je suis avec un homme qui est très, très actif, qui n'est absolument pas silencieux, qui bouge tout le temps, hyperactif. Je crois, mon psy me disait, mais t'as organisé ta vie autour de tout ça. Donc quand on rencontre ses enfants, ses familles, il faut aussi regarder comment ils ont organisé leur vie. Parce que c'est indicible. Moi, je dis toujours, je vais aller écouter l'indicible. On va aller chercher l'indicible. J'ai pas mal de formations, mais celle qui fédère toutes les autres, c'est l'accueil et l'inconditionnel de Carl Rogers, de chercher toujours, toujours l'indicible en chacun de nous. Vraiment, parce que c'est ça qui cherche à se dire, à être entendu. Quand je travaillais dans le POM, dans le placement hors les murs, ça, c'est notre directrice qui a trouvé le POM, il fallait le trouver, c'est P-H-O-M. On a eu une année noire pendant, je crois que c'était la troisième année d'activité, où on était une petite équipe de vieux baroudeurs. On avait travaillé sur le placement familial, l'AEMO, l'AED. On trouvait que rien n'y faisait, ça n'aidait pas les enfants. Donc on s'est dit, le POM, ça va être la solution ultime. On va travailler à l'intérieur. On a appris à travailler avec les parents, faire des synthèses tous les mois. Et de parfaire une synthèse ou une pré-synthèse, on a appris à parler vrai avec les parents, à leur donner des objectifs. Les deux premières années, ça marchait plutôt bien, on les quittait, soit avec une AED, une AEMO, mais on faisait quelque chose de plus léger. Il y avait eu de la rencontre avec ces parents-là, avec ces enfants-là. Et puis la troisième année, patatras, on fait mais une multitude de placements. L'équipe est mise à rude épreuve, on est une petite équipe, il y a un chef de service, une psy, il y a 5 éducs, ils ont 4, vous allez sourire, ils ont 4 familles à s'occuper, à prendre en charge, il y a des TISF aussi, puisqu'il faut travailler à domicile. Et donc cette troisième année, il y a quelque chose qui arrive, du placement à n'en plus finir. On était tous très mal en point, très éprouvés, on a même pleuré avec les parents. Les parents nous disaient merci, on les a pas entendus, pas cette fois-ci, ils nous disaient merci. Et puis lors d'une supervision avec Sophie, je m'en rappelle, on lui expliquait ça, qu'on était vraiment mal éprouvés de tous ces placements. Et elle nous a dit, mais vous voyez pas ce qui se passe? Les parents vous disent merci. Vous voyez pas ce qui se passe, c'est qu'ils acceptent de confier leur enfant à une famille d'accueil. Ils ont compris pourquoi ils ne pouvaient pas les garder. Ils ne se sentent pas jugés. Ils sentent qu'ils peuvent laisser leur enfant grandir ailleurs. Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe? Ben non. On voyait pas ce qui se passait. Mais quand elle nous a dit ça, on s'est dit, waouh! Ah oui, donc on y est allé. Quand les parents, on a pu leur dire qu'on plaçait, on les remerciait pour ce qu'ils faisaient, de dire qu'ils avaient compris, parce que chaque mois on les voyait. Des fois, quand ils ne répondaient pas aux objectifs, on leur disait, bon, on a mis des objectifs trop hauts, on va baisser le niveau. Et puis, la fois d'après, ils revenaient et c'était toujours pas acquis. Donc là, on disait, on ne peut plus. Il y a danger pour votre enfant. Il a besoin vraiment d'être sécurisé. Il a besoin de vivre dans un milieu contenant. Il a besoin de grandir. Et là, ça a été une année assez faste parce que effectivement, j'ai vécu, moi, des placements et j'avais encore une patiente là qui me disait que elle est allée aller chercher 2 petites filles au domicile des parents qui étaient dans des violences conjugales importantes, avec une dizaine de gendarmes, mais qui n'ont pas le droit de frapper à la porte. Donc c'est elle qui est allée frapper à la porte, et elle me dit, depuis, j'ai toujours peur d'avoir un trou dans le ventre. Et ce qui me vient, je lui dis, vous avez imaginé que le père avait un fusil derrière la porte? Elle me dit, oui, c'est ça. Elle me dit, oui, j'étais terrorisée. Il y avait tous ces gendarmes autour de moi et moi je frappais et je savais pas ce qu'il y avait derrière la porte. Donc moi j'ai connu aussi ces placements avec arrachage de dents au pied de biche ou ces conforts pour personne. Pour illustrer ça, j'avais entendu dans un podcast, il y a Boris Cyrulnik qui parlait de Human Bomb, je sais pas si vous vous en rappelez. Dans les années 90, 93 exactement, il y a un monsieur qui est arrivé avec, alors ça a l'air d'actualité là, puisque Vigipirate est assez renforcée en ce moment. Il avait une ceinture de dynamite autour de la taille et il a pris en otage une école maternelle. Et il a dit, voilà, je fais sauter l'école si vous me donnez pas, je sais plus c'était quoi, la somme d'argent qu'il réclamait. Et il se trouve que cet instit a su sécuriser les enfants autour de ça. Elle a pu trouver les mots. Et les enfants n'ont pas été insécures de cet homme-là. Elle a même sécurisé cet homme-là puisqu'elle lui a proposé un café. En coulisses, ce qu'il ne savait pas, cet homme, Human Bomb, c'est qu'il y avait le SAMU qui a donné des tonnes de sédatifs dans le café. Il a bu le café et le GIGN avait pour mission d'aller chercher les enfants très rapidement sous le bras. Résultat des courses, les enfants ont été traumatisés du GIGN. Alors qu'il venait les sauver. Ça aussi, ça m'a rendue curieuse. Bien souvent, je me suis demandé dans ma pratique si j'étais pas le GIGN à des moments, si je ne provoquais pas un autre trauma. Bateson dit souvent, de l'école de Palo Alto des années 60, dit souvent, attention, la solution au problème peut devenir le problème. Et je me suis dit là, attention à ce que nous faisons. Il n'y a aucune accusation. Hein. On nous demande, moi, combien de fois j'ai appelé les juges des enfants, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais pour dire, laissez-moi une demi-heure pour parler à l'enfant, pour lui dire ce qu'on va faire, pour lui dire ce qui va se passer, que ça va être terrible, que ça va être rapide, que ceci, que cela. Mais laissez-moi une demi-heure. Je quémandais. Non. Il faut aller en urgence. Chercher l'enfant, il est en danger. Bah oui, mais ça fait déjà depuis quelques années. On a fait des rapports qui vous signalaient qu'il était en danger. Non, non, il faut y aller maintenant. Et je me dis, bon, attention à pas y aller au pied de biche, parce qu'on peut créer des traumas là où on pense qu'on le sauve l'enfant. Il faut être très prudent. Ce Human Bomb m'a beaucoup appris sur ça. Hein, bien sûr que le GIGN devait venir, hein, bien sûr qu'il devait aller chercher les enfants. Hein, j'imagine qu'il y a eu une séance de débriefing après, et pour les remettre en ordre, pour les rassurer, bien évidemment. Hein, jamais je ne jugerai. Il y a des états d'urgence, on peut pas faire autrement. Et heureusement, on a le droit à un second tour, on peut reparler après avec les enfants, avec les familles, de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait. Hein, je le sais, ça. Mais quand on peut éviter, c'est plutôt bien. Si on peut réfléchir avant, c'est plutôt bien. Je vous disais tout à l'heure, dans le rapport au savoir, on sait ce que vivent les enfants dans les violences conjugales, et encore, hein, pour écouter pas mal d'enfants devenus grands, pour moi, à chaque fois, c'est une œuvre d'art ce qui se passe sur la vie psychique. Hein, il y a quelque chose qui est tricoté. On est semblable, ça c'est sûr, dans la biologie et dans nos besoins. On est très différent et singulier de comment on va tricoter une histoire, comment on va travailler des mécanismes de défense, comment on va se protéger. On est très singulier et ça, j'y tiens. J'y tiens aussi sur les professionnels que vous êtes. Quand j'accompagne, pour moi, on n'est pas meilleur professionnel que quand on est qui l'on est. J'ai travaillé avec plein de personnalités de professionnels. Moi, du moment qu'on est juste avec soi-même, on va être bon. Faut pas cloner l'autre, il faut faire avec qui l'on est. Mieux on se connaît, mieux ça sera. Pour moi, il y a une autre dimension et les soins palliatifs m'ont beaucoup appris ça, parce que dans le travail social, je trouve que la question éthique est quasiment nulle. Qu'est-ce que c'est protéger un enfant? Comment on le protège? Il ne suffit pas de savoir qu'il est en danger dans sa famille pour s'autoriser à retirer l'enfant au pied de biche. Aux soins palliatifs, nous sommes en fin de vie, on pourrait se dire, bon, il n'y a plus rien à vivre. Pas du tout. J'ai découvert, j'étais en place d'accompagner, j'ai été au chevet des patients une année, mais j'ai aussi été 5 années auprès de l'équipe médicale, paramédicale et cadre pour, j'animais le staff éthique, des groupes de parole, enfin tout ça pour soutenir tout le travail. Il y avait 30 à 40 décès par mois. Donc c'est assez récurrent comme comme situation, donc il fallait du soutien éclairé. Et j'ai découvert avec la question éthique, et c'était au cœur de nos métiers. Alors c'est principiel, il y avait quatre articulations, mais j'ai envie de dire ça, c'est l'histoire de causer, de l'histoire de nous mettre au travail. Il y avait le principe d'autonomie, le principe de bien-traitance, de non-malveillance et de ne pas nuire, et le principe de justice. On était toujours très préoccupés de l'autonomie du patient, de savoir ce qu'il veut pas, de ce qu'il avait imaginé pour sa fin de vie. Et puis nous, de bien connaître que le bien que l'on pensait pour lui n'était pas son bien à lui. Et il fallait toute une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir réfléchir sur la question. Alors sur les sédations profondes aussi, c'était important. Ça a permis aussi, moi, de développer la compétence collective. On n'y va pas tout seul quand on y va, que ce soit en protection de l'enfance, et bien souvent vous êtes seul, alors que pour moi il y a besoin d'une équipe quand on a besoin d'aller chercher un enfant, d'aller voir des parents, et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Peut-être on y va seul, mais il faut avoir réfléchi en équipe. Il ne faut pas être tout seul, il ne faut pas porter la décision tout seul, parce que ça je trouve qu'on est à risque. Et bien souvent il fallait, et aux soins palliatifs, il y avait aussi l'idée qu'il y a un INF qui allait s'y coller, un médecin qui allait prendre la décision, mais on a réfléchi tous ensemble, et on a réfléchi, on a mis à l'épreuve tous nos points de vue. Moi j'adore travailler sur des points de vue différents. Jung parle de la transcendance des opposés, c'est-à-dire que il n'y a pas une vérité mais des vérités. On sait bien que les enfants, les familles, suivant qui vous êtes, suivant comment la rencontre va s'opérer, vont vous dire des choses à vous et peut-être dire autre chose à quelqu'un d'autre. Donc c'est important de rassembler les points de vue pour aller trouver la solution la moins mauvaise. Et puis des fois on y tient, hein, on a un sentiment tellement fort qu'on a du mal à écouter ses collègues. Donc c'est important aussi de se décentrer. C'est pas notre histoire, on est au service de l'histoire des parents, de l'enfant. Donc pour moi, et je trouve que ça c'est de plus en plus difficile à trouver, de prendre le temps de se retrouver, de réfléchir, parce que, paraît-il, c'est du luxe de réfléchir, ça coûte de l'argent. Je crois que moi c'est pas luxueux, ça évite des burn-out, ça évite de trop souffrir. Combien je sais, quand j'accompagne les équipes sont en souffrance. La matière est lourde et il nous faut symboliser tout ça pour l'alléger. Il faut la mettre sur le plan vertical. Ça, ce sont mes repères théoriques. La matière que nous travaillons, et notamment sur les violences conjugales. Donc je crois vraiment pas qu'on oublie les enfants. Vraiment pas. Qu'on soit oublié, sûrement. Ça, je crois que de plus en plus, on nous abandonne seuls sur le terrain. On ne comprend pas ce que l'on fait. On fait des coupes sombres, on rajoute un nombre de mandats de suivi aux professionnels. Donc je crois que c'est pas que les enfants, je crois que les professionnels qui sont à l'écoute de cette dynamique-là, ils n'oublient pas les enfants. Mais c'est comment on fait. Et souvent, on est en bout de course. Donc pour moi, ce que j'aurais à vous dire aujourd'hui, c'est n'oubliez pas la rencontre avec l'enfant. Souvent, les professionnels se sont dans des sentiments d'impuissance. Mais je lui dis, mais trouvez votre puissance d'être, soyez là. Vous êtes solide, vous savez faire face, soyez à l'écoute. Être impuissance, pour moi, le sentiment d'impuissance, aussi sur le plan contre-transférentiel, c'est combien vous connectez sans le savoir le sentiment d'impuissance de l'enfant. Il ne sait pas comment faire. Il a envie d'aider ses parents, il n'a pas envie de les quitter, il les aime, il pense que c'est de sa faute. Comment être là pour l'enfant? Oser à la rencontre, pour moi je me dis il faut être audacieux. Alors c'est vrai qu'il faut être solide, parce qu'être là quand on sait tout ce qui se passe, c'est compliqué, ça fait peur. On a peur de ça, on n'est pas bien. Et on a envie de le prendre, mais moi je sais depuis belle lurette que de le prendre, c'est pas ça forcément qui va l'aider. Parfois oui, hein, encore une fois, quand il est en danger physique et psychique, oui. Là, il faut y aller, il n'y a pas le choix. Combien de fois, moi, au tout début de ma carrière, avec À la ZEU, j'ai pris enfants sous le bras comme le JGN et d'accompagner les femmes au CITIS, au centre d'hébergement, et d'entendre que le lendemain, des collègues plus expérimentés que moi rigolaient. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Vas-y, vas-y. Et le lendemain, elles retournaient voir leurs conjoints avec leurs enfants. Je me suis dit, mince, bon, apprenons. Qu'est-ce qui se passe ? Alors le savoir là est important, c'est de savoir que parfois on dit, je ne sais plus où ça en est maintenant, mais à l'époque on me disait qu'il fallait 7 départs pour qu'elle puisse partir définitivement, qu'il y avait 7 allers-retours, que c'est jamais tout à fait un retour en arrière, il y a des choses qui avancent, mais c'est long ce processus d'emprise, de se défaire de ce processus d'emprise, de comprendre ce qui se passe, c'est long, de ne pas en vouloir, d'être toujours là, même quand elle... reviennent, de pas faire sa mauvaise mère ou son mauvais père. Quoi? Je vous ai retiré et vous y retournez, mais je comprends pas. Ben oui, théorie de l'attachement aussi. On ne peut pas quitter un endroit qui n'est pas sécure. Donc bien sûr que le savoir est important. Mais ce savoir-là, c'est pour mieux se rapprocher, pour mieux comprendre, pour mieux accepter ces allers-retours, pour mieux comprendre la terreur. Et pour mieux être là, et pour dire, moi, des fois, je me disais, bon, bah, ok, je sais pas quoi faire, hein, mais je suis là, je vais pas le laisser tout seul. Je vais lui dire qu'il y a un adulte qui tient bon, qui a pas peur de ce qu'il vit. Parce que si j'ai peur, bah, lui aussi va être terrifié, va se dire, bah, j'ai des raisons d'être terrifié, puisque le grand est terrifié quand il me voit. Donc c'est insoutenable. C'est insoutenable. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais me poser là. Ok, tu vis là, tu vis ça, ok, et je suis là, je te prends la main, c'est terrifiant, je suis peut-être terrifiée avec toi, mais je suis là, je ne vais pas te laisser tout seul. Pareil avec les mamans, avec les papas, oser la rencontre, moi il y a des parents dans le pomme, je me rappelle d'un père, gros costaud, tatoué, grand, qui me disait, ouais Brigitte, moi je te préviens, hein, ce que tu me diras là, fais gaffe. Ok, je lui disais, ok, bon, je lui dis, si vous voulez me prouver que vous êtes le plus fort, ok, c'est fait. Vous êtes le plus fort. J'ai envie de vous inviter à une autre forme de rencontre, est-ce que c'est possible? Parce que là, je ne serai pas plus forte que vous, je le sais. Je ne vais pas y aller à la rencontre, à la confrontation. J'ai des choses pas faciles à vous dire. On a des choses pas faciles à vous dire au sein de l'équipe. Est-ce que vous allez pouvoir les entendre? On sait bien que vous faites ce que vous pouvez. On sait bien d'où vous venez. Est-ce qu'on peut se rencontrer autrement? Et ce papa-là, il y a eu une progression. Mais quand on commençait à lui dire des choses qui fâchaient, il disait, est-ce que je peux aller fumer une clope dehors? Oui, oui, je reviens, ok. Parfois c'était long, on retournait le chercher, il revenait. Parfois on allait avec lui, puis petit à petit il est resté. Ça a été un super travail. Donc il faut oser la rencontre. Donc pour moi on peut encore faire ça, oser la rencontre, d'avoir l'audace d'y aller, chercher les partenaires aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile quand on a des points de vue différents. Donc là aussi, moi j'aurais rêvé de rencontrer, je l'ai rêvé, mais j'ai aussi posé à ma chef de service à l'époque, de pouvoir rencontrer, d'avoir fait un tour de table avec les juges, les politiques, par rapport à ces enfants incasables, de dire est-ce que, parce que je sais, aux soins palliatifs, on a eu des situations, mais si vous saviez, vertigineuses, on a toujours trouvé une solution la moins mauvaise, parce que quand on se met autour d'une table, qu'on y va avec nos impuissances, mais on a des points de vue, on arrive à trouver une solution, on arrive à être créatif, on arrive à trouver, tout d'un coup, il y a des choses qui se libèrent. Quand on est seul, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin, et surtout dans les conditions actuelles, hein, où ça s'aggrave, où ça s'amplifie, où ça se déserte, mais où la violence est accrue, on n'y arrivera pas tout seul. Il faut se rencontrer. Faut accepter des points de vue différents, faut accepter de pas être d'accord. Moi, je dis souvent, on peut ne pas avoir le même point de vue, mais se comprendre. Hein, c'est pas compliqué. On est là pour accompagner, donc essayons de faire mieux que les personnes qu'on accompagne. Essayons de trouver un monde qu'on a envie de rencontrer, malgré nos différences. Les arguments sont pas les mêmes. Quand on a fait le POM, on savait qu'on allait être accepté au niveau des politiques parce que ça coûtait moins cher. Même si on mettait des professionnels tout le temps dans les familles, on savait que ça allait coûter moins cher, on savait qu'on allait avoir gain de cause. Bon, mais pourquoi pas? Hein, chaque fonction a des préoccupations différentes. On peut peut-être essayer de se rencontrer. On n'est pas obligé de se faire la guerre. On est tous préoccupés de la même chose. Quand on oublie ses enfants, souvent c'est parce qu'on est préoccupé entre nous. À celui qui dira que c'est ceci, que c'est cela, qu'il faut faire ça. Quand on arrive à ne plus préoccuper, qu'on est plutôt serein, on peut se recentrer sur le sujet, trouver des solutions. Il y en a. Il y en a, moi j'en ai. Il faut être créatif, inventif et avoir l'audace de la rencontre. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être pour conclure, on n'a peut-être pas de solution, mais c'est bien d'en causer. C'est bien de ne pas rester seul avec ça. On n'a pas de baguette magique, mais c'est bien d'aller trouver, d'aller provoquer la rencontre. Mais parfois, on est tellement dans la souffrance qu'on n'arrive plus à se rencontrer. Moi, je rencontre des équipes qui ont honte de ce qu'ils font. Donc, il faut prendre du temps pour les rassurer, les sécuriser, parce que comme on s'isole de plus en plus. Donc, comment retrouver un climat sécur aussi au niveau des équipes pour pouvoir se parler? Parce que la sécurité du bébé, il faut la mettre partout, faut être sécurisé dans une équipe pour pouvoir parler, dire ce qu'on ressent, dire nos peurs, dire nos inquiétudes, dire nos désaccords. Si on n'est pas sécurisé là, on ne sécurisera pas les familles ni les enfants. C'est à tous les étages qu'il faut avoir ce sentiment de sécurisé. Pour moi, on a le droit fondamentalement d'être qui l'on est. Les parents font ce qu'ils peuvent, ceux qui font des violences. Ils ont un transgénérationnel. C'est vrai qu'ils font souvent mieux que les aïeux. Mais ça met du temps à actualiser pour nommer l'interdit de l'inceste, l'interdit de la violence. Ça prend plusieurs générations. Donc il faut les accompagner là-dedans. Nommer qu'ils ont fait mieux, mais c'est pas encore suffisant. Donc il faut être bienveillant. Bienveillant, ça veut pas dire cucu les petits oiseaux. Hein, ça veut dire de pouvoir poser un cadre, mais d'enlever tous les jugements contre.